Michael Levy-Stone, bonjour.
Bonjour.
Alors, en quoi consiste ce réveil de l'Asie centrale qui est le cœur de votre ouvrage ?
Ce que j'ai voulu dire, c'est que, en fait, l'Asie centrale a été une région relativement inerte depuis son indépendance de l'URSS en 1991 jusqu'au milieu des années 2010, et que depuis ce moment-là, on assiste à un réveil, à un retour de l'Asie centrale à la faveur de plusieurs événements. Déjà, à mon avis, l'arrivée au pouvoir de Shavkat Mirziyoyev en Ouzbékistan, qui a vraiment détendu l'atmosphère et, comment dire, mis en œuvre une sorte de politique de détente dans les relations interétatiques en Asie centrale, ce qui était assez nouveau depuis 1991. Et puis, il y a eu des crises. Il y a eu les crises survenues à la périphérie de l'Asie centrale entre l'été 2021, l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, et février 2022, l'invasion russe de l'Ukraine. Des crises intérieures en 2022, encore une fois, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan. Et je rajouterais aussi un facteur géoéconomique, une reconfiguration totale, à mon avis, de l'Asie centrale à la faveur de l'introduction des sanctions contre l'économie russe et qui, là, véritablement, font de l'Asie centrale plus que jamais une sorte de plaque tournante des échanges interrégionaux, que ce soit dans un sens Est-Ouest, Chine-Europe, ou Nord-Sud, Russie, Iran, Inde.
En quoi la situation actuelle de l'Asie centrale est-elle différente du grand jeu dans la région au XIXe siècle ?
Oui, ce que je veux dire simplement, c'est que le grand jeu, ça renvoyait une lutte d'influence en fait entre deux pouvoirs coloniaux, l'empire tsariste, la Russie, et l'empire victorien, la Grande-Bretagne. La Russie qui venait du nord et qui allait vers le sud, qui était à la recherche de débouchés vers les mers chaudes du sud, et la Grande-Bretagne à l'inverse qui venait du sous-continent indien et qui remontait vers le nord. Et donc là, forcément, il y avait une zone de contact entre ces deux grandes puissances. Et en fait, le grand jeu, en fait, ça consistait en quoi ? Tout simplement à délimiter les zones d'influence de l'un et de l'autre. Et c'est d'ailleurs ça qui a présidé à l'établissement d'un proto-État afghan au début du XXe siècle. Ce à quoi l'on assiste aujourd'hui, c'est autre chose à mon avis. C'est déjà tout simplement de dire qu'au nord de l'Afghanistan, on a cinq républiques d'Asie centrale, cinq États indépendants, Kazakhstan, Ouzbékistan, Turkménistan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, qui sont en tant que tels des sujets de droit international, qu'à ce titre, il faut les créditer de leur capacité à prendre des décisions en propre sur le plan de la politique intérieure et étrangère. Et donc le réveil s'applique aussi à nous autres observateurs étrangers, occidentaux, vis-à-vis de cette région. Et puis c'est aussi de dire simplement qu'aujourd'hui, c'est pas simplement deux acteurs qui se disputent cette région. C'est un nombre beaucoup plus élevé d'acteurs extérieurs. Les États-Unis reviennent bien, la Chine est très présente, l'Iran, la Turquie, l'Inde et le Pakistan, le Japon, la Corée du Sud, l'Union européenne, et une série d'acteurs qui sont de plus en plus entreprenants, visibles sur certains secteurs économiques, qui sont les pays du Golfe.
Vous l'écrivez, malgré les apparences, il n'y a pas de déclin de la Russie en Asie centrale. Pourquoi ?
On voit bien que la Russie aujourd'hui est une puissance agressive vis-à-vis de ses voisins issus de l'ex-URSS. Elle a mené une guerre en Géorgie en 2008, elle est en guerre depuis 2022 en Ukraine, elle a un narratif très agressif vis-à-vis des pays baltes, vis-à-vis du Kazakhstan, dont elle a expliqué qu'il fallait le dénazifier en 2022. En même temps, elle projette un risque de déstabilisation économique de l'Asie centrale à travers les sanctions. C'est un vecteur indirect de déstabilisation économique. Elle s'est montrée très immobile face à la reprise des tensions frontalières entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan en septembre 2022, concomitamment à celle qu'il y avait entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Et puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que les pays d'Asie centrale, aucun n'a reconnu les annexions russes des territoires est-ukrainiens. Cependant, ce qu'on observe depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est que les échanges commerciaux entre la Russie et les cinq républiques d'Asie centrale ont tous augmenté. Des fois de façon très marquée, par exemple avec le Kyrgyzstan ou l'Ouzbékistan. Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est vraiment la première fois qu'on voit autant de migrants centra-asiatiques du travail établis en Russie, avec des contingents principalement en provenance du Tadjikistan, d'Ouzbékistan et du Kyrgyzstan. Il y a aussi une intensification du pivot oriental, qui est donc cette stratégie de redéploiement de la politique étrangère et du commerce extérieur russe depuis l'Europe vers le sud, Iran, Pakistan, Inde et aussi Afghanistan d'un certain point de vue.
Est-ce que l'Asie centrale est devenue aussi une zone qui permet à la Russie d'échapper aux sanctions occidentales et de se procurer des armes pour sa guerre en Ukraine ?
Sujet extrêmement sensible, et en fait c'est difficile de vous répondre de manière très précise parce que les chiffres sur le contournement des sanctions, on les a pas, et pour cause. Après, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des sociétés, des entreprises qui ont été sanctionnées par le département américain du Trésor par exemple en Ouzbékistan, au Kyrgyzstan, vous avez eu des banques, 6 banques kyrgyzes stanaises qui ont été sanctionnées, je crois, en 2023. Donc les Américains les ont à l'œil à ce niveau-là. Les États-Unis ainsi que l'Ukraine en 2022 ont accusé le Tadjikistan effectivement d'acheminer en fait les drones, les Ababil 2, donc qui sont des drones iraniens que maintenant le Tadjikistan produit parce que l'Iran a implanté une ligne de production à Douchanbé en 2022, et ce sont des appareils qui auraient été abattus par l'armée de l'air ukrainienne sur le front ukrainien à la fin de l'année 2022, au début de l'année 2023.
Alors un des grands rivaux de la Russie en Asie centrale, c'est bien sûr la Chine. Est-ce que Pékin est en train de prendre la place de Moscou par le biais de l'économie ?
En Asie centrale, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la Chine, c'est un acteur à l'influence accrue et pluridimensionnelle sur l'Asie centrale. C'est un acteur politique qui bénéficie d'un plus grand alignement en fait centra-asiatique sur ses visées, par exemple vis-à-vis de Taïwan, que la Russie ne peut en bénéficier vis-à-vis de l'Ukraine. C'est un acteur économique très important en termes d'investissement. Il y a les nouvelles routes de la soie, mais il y a d'autres projets, des projets dans le renouvelable, des projets dans la cimenterie, des projets dans la métallurgie, évidemment l'énergie avec le pétrole kazakhstanais et le gaz du Turkménistan. Et puis, une fois encore, la question sécuritaire. C'est au Tadjikistan que la Chine a implanté son deuxième avant-poste militaire en 2017, après celui de Djibouti. Donc on voit bien que là, la Chine est en train de s'affranchir un petit peu du gentleman agreement qu'il y avait avec les Russes, un acteur qui s'affirme en propre.
Comment expliquez-vous la stratégie actuelle des États-Unis, des Américains dans la région ?
Les États-Unis, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, quand ils ont quitté l'Afghanistan dans les circonstances qu'on sait, ils ont été un petit peu déconsidérés en Asie centrale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en l'espace de 6 mois, à la faveur de cette invasion russe de l'Ukraine, les États-Unis ont fait preuve d'opportunisme vis-à-vis de l'Asie centrale. Ils ont réussi à reprendre pied dans la région. Il y a un double agenda qui guide leur action aujourd'hui en Asie centrale. C'est très clairement le respect des sanctions. Et c'est l'Afghanistan, évidemment. Et donc, ce qu'on a vu, c'est que les États-Unis, par exemple, se sont employés à combler un petit peu le vide qui avait été laissé par le fait que les Russes avaient redéployer depuis le Tadjikistan vers le front ukrainien peut-être 1000, 1500 hommes qui étaient affectés à la sécurisation de la frontière tadjiko-afghane. Et donc là, les États-Unis sont venus et ont alloué une aide militaire assez importante. On livrait des drones au Tadjikistan pour veiller à la sécurité de sa frontière avec le Tadjikistan. Et puis, il y a eu pour moi, quelque chose d'intéressant, c'est un activisme diplomatique assez fort. On a vu les Américains beaucoup venir en Asie centrale, Blinken par exemple, ou son adjoint pour l'Asie du Sud et l'Asie centrale, Donald Liu, très très actif, qui s'est même rendu au Turkménistan. Et puis Joe Biden lui-même, qui a reçu pour la première fois les 5 présidents centra-asiatiques aux États-Unis à New York, c'était en septembre 2023, et qui a changé tous ses ambassadeurs entre 2022 et 2023 dans les capitales centra-asiatiques. Donc il y a vraiment une volonté de recalibrer l'outil politique et diplomatique américain envers l'Asie centrale.
Alors vous parlez par ailleurs d'un moment iranien en Asie centrale, un retour de l'Iran dans la région, c'est-à-dire ?
L'Iran, au cours des années 2010, a été relativement marginalisé en Asie centrale parce que ses deux partenaires clés, que sont le Turkménistan, son seul voisin terrestre en Asie centrale, et le Tadjikistan, qui est le seul pays peuplé d'indo-européens persanophones et non de turco-mongols, turcophones, ces deux pays-là ont eu des relations un petit peu crispées avec Téhéran. Le Turkménistan a suspendu ses exportations gazières vers le nord de l'Iran, parce que vous savez que les gisements gaziers iraniens sont dans le Golfe, sont dans les eaux du Golfe, dans le sud, et que c'est très difficile de faire remonter ce gaz vers les provinces du nord. Donc c'était beaucoup plus simple et naturel d'importer du gaz depuis le Turkménistan, donc de l'autre côté de la frontière. Et le Tadjikistan, il y a eu une affaire de corruption, l'affaire Babakzanjani, qui est un milliardaire iranien qui a fait sa fortune dans le pétrole et qui a fait de l'évasion fiscale, notamment au Tadjikistan. Les Iraniens ont voulu reprendre la main sur ces fonds et le Tadjikistan a refusé. Donc là, il y a eu déjà une crispation forte, aggravée en 2015 avec l'interdiction du Parti de la Renaissance islamique, soutenu par Téhéran au Tadjikistan. Et puis ce à quoi l'on a assisté en 2021, un réchauffement des relations entre l'Iran d'un côté et ses deux États centra-asiatiques. Le Turkménistan s'est remis à livrer du gaz dans le cadre d'un accord trilatéral conclu aussi avec l'Azerbaïdjan. Et le Tadjikistan, très inquiet de la montée en puissance des talibans en Afghanistan, s'est remis à parler de sécurité avec l'Iran. On a vu, par exemple, une commission conjointe de défense se mettre très rapidement en place entre Téhéran et Douchanbé, et puis l'implantation de la ligne de production de drones Ababil 2 dont on parlait déjà tout à l'heure.
Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui des filières terroristes internationales en Asie centrale ?
Vous avez plusieurs foyers de radicalisation en Asie centrale. Vous avez l'ouest du Kazakhstan, le sud du Kazakhstan, la vallée de Fergana, donc en fait cette micro-région qui est la convergence de l'Ouzbékistan, du Tadjikistan, du Kyrgyzstan, et vous avez un pays dont on ne sait absolument pas ce qui se passe en interne, qui est le Turkménistan, où il y a peut-être eu une tentative de soulèvement de l'armée avec des éléments djihadistes en ligne de fond. Donc le panorama du radicalisme centra-asiatique, c'est celui-là. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez eu au départ un mouvement djihadiste majeur en Asie centrale, qui était le mouvement islamique d'Ouzbékistan, qui est né à cette frontière entre l'Ouzbékistan et le Tadjikistan au milieu des années 90, qui a ensuite été marginalisé en Ouzbékistan, puis même chassé du Tadjikistan pour refluer vers l'Afghanistan, où il a été accueilli à bras ouverts par les talibans. Et puis les Américains sont intervenus en 2001. Ils ont fait très très mal au mouvement islamique d'Ouzbékistan, qui a reflué vers les zones tribales pakistanaises. Ils s'y sont enracinés pendant quelques années, avant de revenir en Afghanistan à partir de la fin des années 2000, début des années 2010. Et puis le mouvement islamique d'Ouzbékistan, affaibli une fois encore, a renié son affiliation vis-à-vis des talibans au profit de l'État islamique province du Khorasan, qui est donc la filiale afghane de l'État islamique, qui a perpétré le massacre que vous mentionnez au Crocus City Hall le 22 mars dernier. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'entre-temps, d'autres groupes djihadistes, plus petits que ne l'avait été le mouvement islamique d'Ouzbékistan à ses grandes heures, sont apparus dans la région et en fait se sont aussi enquistés en Afghanistan. Et en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a donc Al-Qaïda allié des talibans face à l'État islamique province du Khorasan, et que l'un comme l'autre suscite en fait des liens avec ces groupuscules djihadistes centra-asiatiques. Par exemple, vous avez le Jund al-Khalifat, qui sont des Kazakhs, ou la Sabri Jamaat, qui sont des Ouzbeks, qui eux ont juré fidélité à l'EIPK. Et puis vous avez le Jaïch ul-Mardi, des Kirghizes, et la Jamaat Ansarullah, des Tadjiks, qui eux sont affiliés à Al-Qaïda, donc alliés des talibans. Donc en fait, c'est un petit peu ça, la djihadosphère centra-asiatique, très éclatée, quand même aujourd'hui enracinée en Afghanistan, et qui, depuis ce pays, peuvent perpétrer des attentats. Ce qu'on a vu avec le Crocus City Hall, et en fait ça fait suite à un précédent attentat revendiqué par l'EIPK en Iran à Kerman le 3 janvier, qui avait été aussi un épouvantable massacre, hein, je crois qu'il y a eu quasiment 100 morts, c'est que ces deux attaques ont été perpétrées par des Tadjiks. Donc de là à polariser sur le Tadjikistan, je pense qu'il faut quand même se calmer. Il y a d'autres pays, malheureusement, pourvoyeur de djihadistes en Asie centrale aujourd'hui, le Kyrgyzstan, un ressortissant du Kyrgyzstan avait commis un attentat dans le métro de Saint-Pétersbourg en 2017, l'Ouzbékistan, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le Tadjikistan, les Tadjiks, par leur connaissance d'une langue dérivée du farsi, en fait, qui est une langue persane, et par leur forte implantation à travers la communauté du travail, les migrants du travail qui sont donc aujourd'hui établis en Russie, laisse miroiter d'intéressantes perspectives de déstabilisation pour l'EIPK à travers deux pays particulièrement détestés qui sont l'Iran, l'apostat chiite, et la Russie, qui a soutenu Bachar al-Assad en Syrie face à Daesh, qui pactise avec l'ennemi iranien et qui cultive un dialogue actif, approfondi avec les talibans depuis 2014.
Est-ce que ces filières menacent aussi l'Europe, la France ? Parfois, on évoque vaguement, parce qu'on manque d'informations, le parcours de certains djihadistes qui ont pu frapper la France, qui seraient passés par l'Asie centrale. Qu'est-ce qu'on sait exactement ?
Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que vous avez des centres asiatiques qui vivent dans toutes les capitales européennes. Ce qui est intéressant pour des groupes comme l'EIPK, c'est de voir des divisions intestines dans les sociétés occidentales. Et ce qu'on voit, c'est que les Pays-Bas et la France sont deux pays où on peut pas débattre sereinement de la place de l'islam. Ça prend des proportions importantes et c'est politiquement extrêmement abrasif comme sujet. Donc je pense qu'effectivement, oui, d'autant que Paris a déjà été frappé au Bataclan, comme on s'en souvient, par la maison mère Daesh, si j'ose dire, et que Paris s'apprête à accueillir les Jeux Olympiques d'été. Donc je pense malheureusement que oui, Paris est dans le viseur des terroristes de l'EIPK.
Michael Lévy-Stone, la France s'intéresse elle aussi bien sûr à l'Asie centrale depuis François Mitterrand, et dernièrement, vous le décrivez très bien, Emmanuel Macron a intensifié les relations avec les républiques centra-asiatiques. Alors pourquoi est-ce que la France s'intéresse à l'Asie centrale ?
C'est des marchés, hein. C'est des marchés. Enfin, le Kazakhstan, c'est le premier producteur mondial d'uranium, donc on peut pas se désintéresser de ce pays. L'Ouzbékistan, c'est un pays qui a un potentiel agricole intéressant. C'est un pays qui a signé les accords de Paris, comme le Kazakhstan d'ailleurs, qui veut décarboner son économie. Donc je pense qu'il y a des marchés intéressants pour les grandes entreprises françaises qui sont présentes sur, une fois encore, essentiellement sur les marchés kazakhstanais et ouzbékistanais. Et puis, c'est une région qui est, je veux dire, géostratégiquement, une fois encore, tout sauf neutre. Et c'est l'une des idées forces aussi de mon livre. C'est aussi ce pourquoi je m'intéresse à l'Asie centrale. C'est parce que vous n'avez pas beaucoup de régions aujourd'hui qui sont en première ligne face à deux des plus graves crises internationales, Afghanistan au sud, Ukraine au nord, et qui soient comme ça à la convergence des grandes puissances hors États-Unis de ce monde, à savoir la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et pas très loin non plus l'Inde.
Michael Lévy-Stone, merci beaucoup.
Merci à vous.